parmi nous une Taïwanaise qui aime le français, si j'ai bien compris, une Argentine aussi passionnée par le français. Et Fabio, on a dit quelques mots hier, c'est quelque chose qui fait partie de votre quotidien. Nous allons nous poser plusieurs questions. Est-ce que la poésie, plus que qu'autres genres littéraires, résiste à la traduction, par exemple? Comment traduire la poésie? En traître ou en passeur? Qu'est-ce que ça veut dire traduire? Comment transmettre l'étranger du poème dans la langue étrangère? Alors, nous n'allons probablement pas pouvoir répondre à toutes ces questions, mais nous allons essayer. Moi-même, j'ai participé récemment à la collaboration d'une petite anthologie. Je ne prendrai que 2 minutes parce que j'en suis fière. Moi-même, parfois traductrice, à une anthologie de 14 poètes français qui étaient traduits en slovène par 4 jeunes traductrices. Et ce qui était passionnant dans cette traduction, ce n'était pas seulement la transmission, le passage d'une langue à l'autre, c'était aussi la discussion entre les 4 personnes, comment chacune d'elles appréhendait la traduction d'un même poème. Et donc peut-être qu'on va pas mal parler aussi de cela, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je dirai quelques mots pour vous présenter. Tian Hui. Wang, doctorante en littérature générale et comparée à l'université Sorbonne Nouvelle, Paris 3, et boursière d'État taïwanais, qui s'est installée à Paris vers 2014. Après avoir travaillé à Taïwan durant 10 ans, elle décide de quitter son poste et son pays, qu'elle affectionne, pour accomplir son rêve de faire des études à l'étranger, à assouvir sa passion pour la langue française. Maintenant, elle se focalise d'une part sur sa thèse, qui a un nom très prometteur, insularité, agentivité des lieux et tropisme identitaire. Vous allez nous en dire plus tout à l'heure, ça m'intrigue beaucoup. En tout cas, si j'ai bien compris, c'est plutôt une lecture de dehors sur la littérature de Taïwan. Et je pense qu'on va tous vous écouter avec beaucoup de passion. Et ce n'est pas sans intérêt. Vous désirez ouvrir en France la première librairie taïwanaise, si j'ai bien compris. Et on vous souhaite tout le bonheur. Roxana Paez, donc poète, essayiste, traductrice, lectrice argentine, qui est venue en France d'abord, si j'ai bien saisi, pour les traductions en tant que boursière. Et puis ensuite, vous vous êtes installée en France pour la Biennale internationale des poètes Val-de-Marne. Et aujourd'hui, vous êtes membre du comité de rédaction de la revue Zone Sensible, en plus de nombreux essais publiés dans des revues et des ouvrages collectifs. Vous avez publié plus de 15 de livres. Et quand j'ai cherché les informations sur vous, j'ai découvert que vous êtes très connu dans votre pays d'origine. Et je vous souhaite le même succès ici, parce que pour l'instant, nous avons trouvé 3 titres qui sont traduits en bilingue. Et j'espère qu'il y a des éditeurs qui vont entendre aussi votre poésie aujourd'hui, si on a l'occasion de l'entendre, malgré le fait qu'on va parler de la traduction. Fabio Scotto, tout le monde m'en parle. J'en ai entendu parler par la Semaine de la Poésie cette année, par Pierre Soletti. Je suis très ravie aussi de faire votre connaissance. Professeur de littérature française à l'Université de Bergame, mais aussi grand poète, auteur de 10 recueils et de nombreux livres d'artistes. Et vos poèmes étaient traduits en 15 de langues. L'auteur de plusieurs volumes d'essais, dont sur la traduction, vous avez traduit une 30 d'ouvrages dans les grands noms comme Alfred de Vigny, Victor Hugo, Yves Bonnefoy, Bernard Noël, etc., plus les nombreuses anthologies. Et puis aussi Apollinaire, et je pense que nous allons pouvoir entendre aussi votre traduction dans les 2 langues. Peut-être qu'on peut commencer par cela. Voilà.
Alors, merci beaucoup pour cette invitation aux organisateurs du marché de la poésie, à vous qui êtes là pour partager ce moment avec nous, ce qui me donne l'occasion aussi de connaître des collègues. Ça fait toujours plaisir, parce que souvent dans ce métier, on se sent très seul. On est seul avec l'auteur qu'on traduit, qui souvent n'est pas là parce qu'il n'est plus vivant, et donc on doit imaginer ce qu'il nous aurait dit de ce qu'on fait, de ce qu'on fabrique de ce texte. Alors, j'étais pris un peu de court, mais bon, on pourrait peut-être prendre un poème d'Apollinaire. J'ai fait une anthologie pour les éditions Passille de Florence des poèmes d'amour d'Apollinaire, et axé sur les poèmes à loup. Donc il n'y a pas que le poème à loup, j'ai mis certains classiques et d'autres poèmes moins connus. Et là, je vous lis peut-être La Zigane, je le lis d'abord en français et ensuite je donne ma traduction italienne. La Zigane. La Zigane savait d'avance, ne devit barrer par les nuits. Nous lui dîmes adieu et puis, de ce puits sortit l'espérance. L'amour lourd comme un ours privé dansa debout quand nous voulûmes, et l'oiseau bleu perdit ses plumes et les mendiants leurs aves. On sait très bien que l'on se damne, mais l'espoir d'aimer en chemin nous fait penser main dans la main à ce qu'a prédit la zigane. Et ça donne en italien la zingara. La zingara sapeva dal principio le nostre vite sbarrate dalle notti. Le dicemmo addio e poi la speranza uscì da quei pozzi. L'amore greve come un orso privato in piedi danzò quando volemmo, e l'uccello blu perse le sue piume e i mendicanti i loro ave. Sappiamo assai bene che ci si danna, ma il desiderio di amare in cammino ci fa pensare, tenendoci per mano, alla zingara che ci predisse il destino. Voilà.
Merci, merci beaucoup. Quelle belle preuve, et vous avez bien fait de me demander si on peut lire un texte français dans d'autres langues. Parce que très souvent, on va parler des traducteurs qui vont traduire une langue étrangère en français, et on dit qu'est-ce que la langue, votre langue est juteuse, qu'est-ce qu'elle est joyeuse. Mais à l'inverse, ça se produit de même manière, et la richesse de ceux qui peuvent lire les poètes dans leur langue. Ce qui me semble important pour tous les traducteurs, c'est pas important, c'est un point commun de tous les traducteurs, c'est l'amour pour la langue dans laquelle ils vont traduire ou de laquelle ils vont traduire. Vous trois, ce qui vous unit en plus de vos langues différentes, c'est cet amour pour le français. Et j'imagine aussi pour la littérature française. Peut-être brièvement, juste pour donner un point de départ, si vous pouvez chacun de vous donner votre point de départ avec le français et la littérature française, s'il vous plaît.
Donc, bonjour à toutes et à tous. Et je vous demande le pardon pour mon niveau de français si je parle trop mal.
C'est très bien.
Et puis, comme Mathéa a présenté tout à l'heure, en fait, je suis venue en France, à Paris, depuis 2014, pour vraiment l'amour pour cette langue. Parce que à Taïwan, comme déjà Paris, c'est comme une marque. Chaque chose avec Paris derrière, ils vont très bien. Et moi, contrairement, s'il y a quelque chose qui m'attire jusqu'ici, c'est vraiment la langue. Et chaque fois qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé « Et pourquoi le français ?» je dirais maintenant, s'il y a vraiment une réponse, c'est plutôt la nuance dans cette langue qui m'attire beaucoup. Et je donne un exemple, peut-être c'est pas très juste, mais... au moins, c'est mon propre expérience, parce qu'en prenant, par exemple, l'anglais, maintenant, autour du monde, c'est comme toujours la deuxième langue pour l'apprendre, à Taïwan aussi. Mais quand j'ai commencé à apprendre l'anglais, pour moi, la grammaire, normalement, il n'y a que deux côtés, c'est-à-dire vrai ou faux. C'est-à-dire quand on utilise telle ou telle grammaire, c'est-à-dire que c'est vrai. Dans certains cas, et l'autre, c'est faux. Mais pour moi, dans la grammaire du français, il n'existe pas seulement ces deux côtés, vrai ou faux, mais vraiment une émotion, un sentiment et aussi une attitude. Par exemple, quand j'apprends « si » avec « présent », par exemple « si il fait beau », et après tu peux utiliser « présent » ou « futur », on irait au cinéma. Et aussi on peut dire « si il faisait beau », donc c'est imparfait. Et après, on utilise le conditionnel. On irait au cinéma. Les deux sont possibles pour exprimer une probabilité. Pour moi, quand je ouvre un livre de la grammaire, mais quand je suis débutante, comme pour l'apprentissage du français, je ne peux pas mémoriser, je ne peux pas distinguer les différences entre ces deux petites grammaires. Mais après, au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre. La différence, c'est vraiment la possibilité ou la probabilité. Même ces deux mots, possibilité et probabilité, pour moi, c'est synonyme. Mais pour les Français, il y a la différence de niveau pour la possibility, si on peut dire. Donc, c'est un des exemples pour la nuance dans cette langue française qui m'attire jusqu'ici. Mais s'il y a vraiment un point de départ, pour moi, c'est, c'est Roland Barthes. Mais quand j'avais à peu près 25 ans, 24 ans, allô, et j'ai lu Roland Barthes, mais en chinois, mais à cette époque-là, la logique cachée dans le discours ou dans l'écriture de Roland Barthes vraiment m'a choquée et m'a intriguée beaucoup. Donc à ce moment-là, je me suis dit, même en lisant en chinois, mais en chinois taïwanais, je dis, parce que maintenant, comme le français québécois est français, français-français, c'est différent à Taïwan et en Chine aussi. On utilise la même langue, mais avec beaucoup de différences. Mais en tout cas, quand j'ai commencé à lire en chinois déjà, j'ai trouvé beaucoup de choses qui sont très, très passionnantes. Donc à cette époque-là, je me suis dit, c'est grâce à sa pensée ou grâce à sa langue, je dis Roland Barthes. Donc c'était vraiment le point de départ pourquoi j'ai commencé à décider d'apprendre ces langues. Voilà. Et oui, et après, comme Mathéa a dit, maintenant, en fait, je ne suis pas du tout une traductrice professionnelle. Je suis pour l'instant une étudiante, une doctorante à Paris 3. Donc, et en plus, je fais les études plutôt sur la littérature dite roman et en plus de Taïwan. Mais si ça vous intéresse, j'aimerais de vous présenter un peu le contenu ou plutôt l'idée de ma thèse. Donc, en tout cas, en gros, il y a beaucoup de mots-clés dans le sujet. Mais maintenant, ça se modifie un petit peu. Mais grosso modo, c'est l'insularité et adjonctivité et quoi d'autre ? Tropisme, oui. Et tous ces trois mots sont très étrangers dans la langue française. Donc d'abord, insularité, parce que Taïwan, comme Taïwan, est une très, très petite île. Et quand j'ai décidé à continuer mes études doctorales, je me suis dit, en fait, comment dire, la première question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que la littérature taïwanaise ? C'est-à-dire, normalement, quand on parle d'une littérature de tel ou tel pays, il y a, par exemple, si on parle d'un pays, normalement, il y a une frontière géographique. Mais est-ce qu'il y a une frontière littéraire pour une littérature ? Donc ça, c'est la première question que je me suis posée. Donc, parce que Taïwan, comme tout le monde le sait, on a une situation très, très compliquée au niveau diplomatique. Donc, chaque fois, quelquefois, on pense que la littérature taïwanaise est dans la littérature chinoise. Donc je me demandais s'il y a vraiment une littérature dite taïwanaise. On doit trouver une singularité. Et pour moi, au bout de 2 ans, je me suis dit, je dois commencer par ce mot-clé qui est l'insularité. Donc, parce que c'est vraiment la première différence entre Taïwan et la Chine. On est une île. Donc, est-ce que, et après, pourquoi agentivité? Parce qu'à Taïwan, il y a beaucoup de romans ou beaucoup d'écrivains qui ne sont pas d'origine taïwanaise. C'est-à-dire, par exemple, à Taïwan, il y a beaucoup d'écrivains sino-malaisiens qui habitent à Taïwan et qui à Taïwan, mais écrivent plutôt sur leur propre île, c'est-à-dire le Bornéo, pas Taïwan. Mais on les encadre quand même dans la littérature, en parenthèse, de Taïwan ou taïwanaise. Donc après, je me demande donc pourquoi ils décident de rester à Taïwan et publier à Taïwan, mais écrivent l'histoire sur leur île, mais pas du tout sur Taïwan. Donc, est-ce qu'il y a une agentivité, c'est-à-dire une vecteur, une attraction produit par Taïwan? Donc, ça, c'est la deuxième mot, agentivité. Je ne sais pas si vous le comprenez. Vous le comprenez. Et après, la troisième mot, c'est quoi? C'est tropisme. Donc, c'est plutôt à propos de l'identité. Parce qu'en fait, je voudrais faire les études sur l'identité de Taïwan. Mais en tout cas, pour moi, l'identité, ce n'est pas singulière, c'est plutôt pluriel. Donc, tropisme, c'est plutôt une idée dont la plantation, c'est-à-dire les plantes, se dirigent vers le soleil. Donc, pour moi, identité aussi. Il y a des tropismes. Donc, il y a aussi la convergence, mais la divergence. Oui. Et oui, et voilà. Et après, au niveau de la traduction, dont je parle très vite, parce que comme j'ai dit, je ne suis pas une traductrice professionnelle, mais je traduis pour l'instant pour 2 buts. La première, c'est pour les sources, les références de ma thèse. Et la deuxième, c'est je traduis mes propres poèmes. Donc, mais c'est plutôt du chinois au français. Donc, c'est un peu à l'inverse. Donc, si je peux dire, il y a quelque chose comme difficulté, mais aussi comme point intéressant, c'est bien sûr l'intraduisible. Mais pour moi, l'intraduisible n'est pas quelque chose comme un seuil infranchissable. Pour moi, l'intraduisible, c'est justement le point de départ pour commencer. Donc hier, j'étais très très nerveuse parce que quand je suis venue ici, je me suis dit, en voyant autant de monde, je me suis dit j'étais vraiment trop audacieuse d'accepter de venir ici. Mais finalement, je voudrais vous partager une image dans ma tête hier quand je pensais à la traduction. Donc pour moi, surtout dans le monde de la poésie, parce que, comme peut-être vous le savez, chinois, c'est une langue idéographique, donc on n'est pas d'alphabet. Donc, quelquefois, un caractère représente déjà une idée, même une phrase ou une image. Donc, dans mon cas, quand j'écris, par exemple, en 5 ou 7 caractères, en chinois, mais je le traduis, c'est mon propre poème, mais je ne peux pas garder la même densité que dans la langue chinoise, parce que je dois diluer un peu le caractère en 3 ou 4 mots. Donc après, beaucoup de mes poèmes deviennent prose en français. Mais pour moi, c'est pas un processus de, comment on dit ça, c'est pas intraduisible. Donc finalement, pour moi, si l'original, c'est le chemin principal, et la traduction, un peu, c'est comme le chemin ou la piste à côté de le chemin principal, mais caché par les herbes, qui est très haut. Donc, je ne vois pas clairement ce chemin principal à côté de moi, mais finalement, je garde la direction de l'original. Donc, je sais finalement, je me dirigerai vers la même direction, mais en créant une autre piste. Donc ça c'est finalement la traduction de mes propres poèmes, qui est une petite piste et enfoncée. Voilà.
Très bien, merci beaucoup. Super. Je trouve que c'est absolument fascinant et je vous remercie parce qu'on est passé par plusieurs étapes. On a presque traduit du français en français. Et cet amour pour la langue qui est extrêmement riche et formidable. Il y a plein de questions qui ont surgi dans ma tête que bon, on peut garder pour plus tard. Mais par exemple, vous avez lu Barthes en chinois, taïwanais chinois. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous l'avez lu en français? Ou à l'inverse, vous avez parlé de la sensibilité de la langue française. Comment vous la traduisez ensuite dans votre langue? Mais bon, on verra si on peut retourner vers ça. Roxane, je vous invite donc aussi de nous introduire dans votre monde de votre langue française.
Oui, je pense que j'aimais d'abord la littérature française grâce aux bonnes traductions. Et c'est vrai que l'Argentine a une bonne traduction, une bonne tradition de traduction, et magnifique, une grande curiosité. Et donc je me souviens dans mon adolescence d'être enfermée un long week-end d'avril avec Une saison en enfer en espagnol, et je pense que si j'étais enfermée avec Une saison en enfer en castillan, c'était qu'il s'agissait d'une très bonne traduction, une traduction contemporaine dont le nom j'ai oublié. Et puis il y a une autre incroyable traduction quand j'avais commencé mes études de français. C'était la traduction de Chant de Mal d'Aurore de Pellegrini, qui était un extraordinaire traducteur du français, de la poésie française. Et j'ai pu profiter d'une édition bilingue qui sont toujours obligatoires en Argentine. Et j'apprécie beaucoup ça, non, pour qu'on puisse voir en tant que poète ou traducteur justement les langues face à face et apprécier les jeux ou la chorégraphie.
Obligatoire, c'est ça?
Oui, c'est obligatoire et c'est mal vu la traduction qui n'est pas bilingue. Et donc, je viens de cette tradition et ce qui m'a amenée en France, bizarrement, c'était une traduction la plus difficile peut-être, ou presque la plus difficile que j'ai entrepris, que c'était la critique du rythme d'Henri Méchonnic. Qu'un soir avait tellement de la poésie ancienne et contemporaine. C'était un vrai défi. Et donc, je suis venue deux fois en France. J'ai eu deux espèces de résidences des années consécutives. Et cette traduction qui m'a été payée ne s'est jamais publiée. Parce que l'éditeur indépendant est tombé en faillite avec la crise en Argentine. Et donc, et moi-même, je n'ai jamais suivi ce qui s'est passé après, parce que j'étais dans ma propre crise. Je suis venue en France après. Mais au départ, avant d'habiter en France, j'étais au collège des traducteurs littéraires de Arles, et qui était un endroit passionnant pour les échanges entre traducteurs, et où il y a des écrivains aussi. Et puisque quand je commence à habiter ici, je commence à avoir ces problèmes de... J'écris en espagnol, en castillan, la plupart des fois. Et maintenant, comment je fais pour transmettre ce que j'ai fait? Et je suis encore là depuis des années. C'est très dur. Mais il y a eu des amis, des poètes qui m'ont proposé. On a traduit à deux voix, à quatre mains, notamment avec Geneviève Hutin, cette grande amie qui aujourd'hui a une allée ici dans le marché qu'on a perdue l'année dernière. Et avec laquelle on a traduit mon premier livre publié en France, en édition bilingue par Reflet de Lettres, et Alcyon, une coédition franco-argentine. Et juste en pensant qu'est-ce que j'allais raconter ici, je viens de tomber sur son dernier mail qui m'a envoyé, je pense, le 14 février 2018. Où il me conseille des éditeurs, où on parle des traductions, etc. Et elle, en me faisant une espèce de préface que j'ai mis comme fausse face dans un livre sur Paris, où je suis témoin des migrations humaines en tant qu'immigrante, elle, qui m'avait encouragée beaucoup pour ses livres, a écrit ses textes. où elle parlait de deux poèmes où je ne m'étais pas rendu compte que c'était des poèmes qui avaient un rapport avec la traduction. Et c'est elle qui les a traduits. Après plusieurs années, comme je dis, de se traduire mutuellement. Donc, un de ces poèmes, que je vais lire d'abord en espagnol, s'appelle « Apprendre une langue maternelle ».« Aprender una lengua materna ». C'est ça tous les paradoxes de personnes qui habitent entre deux langues. « Entraste à l'aula. La classe y va empezar. Eras vos la profesora de español y viste al indio sin un gesto, la cara más dura en inocencia jamás vista. Habla con él, dijiste a su compañero de banco, ¿para qué estudiar castellano? Para poder hablar con mi madre. Escribir en una lengua que no sea materna, la que se olvida volver a aprenderla. ¿Fuiste hasta el fondo del idioma que tu madre habló hasta por los codos? ¿Podés perder la lengua de tu hijo que aprendió con tu voz? Pero como un preludio, pero como una fuga. ¿En qué van a hablar cuando se vean? Cuando él las repetía, y ahora mismo, al usarlas, cada una se vuelve una palabra poderosa y hermética. Como un imán, tan hermosa, extraña, distinta, vive de manera diferente, en otro lugar, ser extranjera como tu lengua, la del indio que se olvidó de cómo hablarla. Tu es entré dans la salle de cours, la classe allait commencer, c'était toi le professeur d'espagnol. Et tu as vu l'Indien de ton continent sans un geste, les visages les plus impassibles jamais vus. Posez-lui une question, tu as dit à son camarade. Pourquoi étudier l'espagnol? Pour pouvoir parler avec ma mère, répondit-il. Écrire dans une langue qui ne soit pas maternelle, celle qu'on oublie, l'étudier à nouveau. Es-tu allé jusqu'au fond de ces moulins à parole que ta mère faisait tourner? Peux-tu prendre la langue de ton enfant? Peux-tu perdre la langue de ton enfant, celle qu'il a appris de ta voix? Et là, je continue avec des paroles de Geneviève sur ce texte qui dit, dans un poème intitulé « Chancelement », ce sont les femmes de Belleville, bon, c'est les livres que j'écris, celles qu'on interviewe parfois quand elles manifestent dans la rue du monde, et qui en deviennent les allégories, marcher sur les pavés avec ses deux jambes, dans le sentiment d'être et de ne pas être ici, d'ici et pas, dédoublé dans une danse de l'esprit. Mais aussi les femmes maigres venues exercer sur les trottoirs, bascule comme nous, un pied ici, un pied là-bas, une danse de l'esprit, du lieu à mille lieues, droite, gauche, claquette sans bruit, qui dessine le chancelement, au moins entre des langues. Et donc, c'est ce chancelement que j'habite et qui m'habite. Et bon, après penser qui sont mes. Qui sont dans mon panthéon à propos de la réflexion sur la traduction, évidemment Benjamin, évidemment Mechoni quelque part. Mais aujourd'hui, je pense que ce que je peux rescaper le plus, c'est Haroldo de Campos, qui est vraiment un génie. Et moi aussi, j'ai du sang en roumain. Et donc, je rescape ces vampirisations, les vampirismes, les luciférismes dont il parle. Par lesquels on s'en fiche vraiment de la fidélité. Et il y a une question de chorégraphie entre les deux langues qui se dessine entre les langues pour la traduction, qui a un peu d'une attention flottante, qui a aussi d'une intuition, que comme Virilio disait, l'intuition c'est un excès de vitesse de la pensée, donc c'est pas l'improvisé ni le l'imprévu. C'est, ça tient tout de Mallarmé, et d'essayer de contrôler les hasards. Et j'ai voulu justement dire deux phrases d'Haroldo de Campo, et je salue la maison d'édition Nous, qui a publié ce livre magnifique de la raison anthropophage. Évidemment, ça s'agit de l'anthropophagie aussi, qui nous vient du Brésil. Et il dit « Incendié par le signe enflammé de son ange instigateur, la traduction créative possédée par le démonisme n'est ni pieuse ni mémoriale. Elle vise, à la limite, la rature de l'origine, l'oblitération de l'original. Cette amnésie parricide, je l'appellerai translucifération. Et c'est génial, ça. Et d'ailleurs, ça peut nous introduire au sujet, puisque ici, il y a des poètes, on est tous les trois poètes. Toi aussi, tu es poète. Et comment on fait pour se traduire soi-même? C'est quelque chose de terrible, de très traître.
C'était exactement une des questions aussi, c'est que vous êtes tous les trois poètes et que des fois on se traduit soi-même, mais est-ce que le rapport est le même quand on traduit l'autre auteur ou quand on se traduit soi-même? Donc je ne pense pas qu'on a la même sensibilité, on n'a pas la même exigence. Tout à l'heure, Fabio, vous disiez que vous traduisiez des poètes qui ne sont plus là et qu'il y a une sorte de solitude. Mais il y a aussi des poètes qu'on traduit qui sont là, et c'est vivant. On voit bien qu'il y a une communication, une discussion, et c'est assez fort quand on a, en tout cas pour moi, quand on a l'auteur en face. Des fois, cet auteur parle la langue dans laquelle on va traduire. Donc l'angoisse, l'inquiétude, fragilité, presque, de l'un comme de l'autre. Est-ce que je vais dire, est-ce que je vais pouvoir m'exprimer jusqu'au bout? Où est la liberté du traducteur quand il traduit un auteur vivant ou notre propre traduction? Voilà, tout ça, c'est effectivement, Fabio, peut-être qu'on peut continuer avec cette question et puis aussi votre rencontre avec le français.
Oui, bon, ma rencontre avec le français n'a pas été initialement intellectuelle. C'est tout simplement que j'avais au collège une femme prof de français qui était suisse et je devais avoir été un peu amoureux d'elle précocement et donc ça m'a fait plaire ce qu'elle faisait quoi. Et successivement j'avais pris un lycée, une filière en anglais, je faisais pas de l'anglais et on est parti en Angleterre en stop avec deux camarades de classe et il fallait traverser toute la France. Et mes deux autres camarades de classe ne parlaient pas tout français. Alors moi, j'avais le rôle, comme on ne voulait pas se diviser, on avait beaucoup de bagages, une guitare et tout ça. Donc il fallait quelqu'un qui... Le chauffeur et la voiture vide, sinon ce n'était pas possible de nous prendre tous les trois. Alors moi, j'avais le rôle d'être à côté du chauffeur. Et au fur et à mesure que je parlais français, on faisait des kilomètres. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert, par la nécessité de ne pas rester au bord de la rue, que je pouvais parler français, ce que je n'avais pratiquement pas fait avant à l'école. Et successivement, dans les études universitaires, j'avais encore une fois pris langue et littérature étrangère en mettant première langue anglais et deuxième langue français. Et puis je me suis rendu compte, à la fin de la deuxième année, c'était sur 4 ans, que j'étais plus doué pour le français, qu'on était moins nombreux, qu'on nous suivait mieux, que j'avais un penchant pour la littérature, que j'ai découvert quelque chose qui parlait à moi à travers ces textes. Et voilà, ça a été la chance de ma vie, alors que tout le monde m'aurait dit, mais non, l'anglais, c'est le travail, ce sera plus facile, et tout ça. Et finalement, moi, je peux dire que non, j'étais l'un des rares francisans qui ont eu la chance de faire du français, d'en vivre pratiquement dès la fin des études jusqu'à maintenant. Donc, étudier le français, ça peut donner du travail. C'est la première chose que j'ai envie de dire ici. Et pour ce qui est de la traduction... j'ai commencé à traduire parce qu'on m'a demandé de le faire après que j'ai publié des poèmes. Donc c'est parce que j'écrivais de la traduction des poèmes qu'on m'a demandé d'essayer d'en écrire. J'ai pas eu une formation théorique parce qu'à l'époque, dans les études universitaires, la théorie de la traduction n'existait pas, n'était pas enseignée, et donc la traduction était présente seulement comme exercice de thème lorsqu'on parlait, on passait souvent de la langue maternelle à la langue étrangère, ce qui est absurde parce que personne ne te demandera jamais, parce qu'ils ont déjà les traducteurs de langue maternelle qui font ça mieux que nous. Et donc c'était un exercice pour vérifier essentiellement par la méthode classique si on connaissait la grammaire, si on appliquait bien les règles, mais ça ne donnait pas des textes qui étaient des textes dans l'autre langue, en fait. Et donc, tout cela est venu après pour moi. Je me suis formé, lorsque j'ai commencé à publier des poèmes, on m'a demandé de traduire les poèmes du traducteur français de Montale, qui était parfaitement bilingue. Et donc, ça a été un apprentissage important pour moi, parce que en faisant ce travail, il me donnait aussi les secrets du métier pour le traduire. Et donc, j'ai eu immédiatement un dialogue avec un vivant, ce qui m'a ouvert plein de perspectives. Et successivement, ça a été des auteurs morts comme Vigny, comme Hugo, comme Villiers de l'Isle-Adam. Et là, je n'ai pas eu la possibilité d'échanger avec eux, mais je l'ai fait à travers la lecture, à travers une sorte d'introspection, d'approfondissement de ces notions à travers la culture. Et successivement, j'ai essayé de me traduire, parce qu'au début, je n'avais pas de traducteur. Et quand j'ai vu comment c'était douloureux, tout ce que je perdais en sachant très bien d'où je partais de mes propres poèmes, dès que j'ai eu des traducteurs, je préférais ne pas me faire de mal, et j'ai eu la chance d'avoir plusieurs traducteurs français parmi les meilleurs. J'aime les rappeler ici parce que je pense qu'ils sont chers à plusieurs personnes qui aiment la poésie ici, des gens comme Bernard Siméon, comme Jean-Baptiste Parra, comme Patrice Angenilly lui-même, comme François-Michel Durazzo qui parlait hier soir ici, et d'autres encore, et Bernard Noël aussi, des amis poètes. Et donc, je préfère être traduit par les autres parce qu'ils me révèlent des côtés de mon texte auxquels je n'aurais pas pensé, qui me sont cachés, que mon texte... Là, c'est un peu l'idée de Benjamin. Le texte traduit continue à l'infini par les traductions, à être écrit à l'infini, infiniment. Et c'est plus intéressant pour un auteur de se voir traduit, parce que même si ce n'est pas exactement ce que je ferais moi-même, l'autre a plus de possibilités linguistiques et aussi a une perspective révélatrice d'un côté caché de mon texte qui m'est intéressante, voilà, qui est intéressante pour moi. Et sinon, j'écris directement dans l'autre langue. En fait, l'année prochaine, je vais rassembler mes poèmes français écrits ces 30 dernières années dans un livre, et qui sont dans des plaquettes ou qui sont parfois dans mes livres italiens, publié directement en français à côté des textes italiens sans être traduit. Donc je laisse au lecteur cette frontière métisse, non ? Je veux lui proposer quelqu'un qui habite entre deux langues, non ? Qui vit cette hésitation prolongée, non seulement entre le son et le sens, comme le dirait Valérie de la traduction, mais aussi entre deux cultures, entre deux façons de penser. Et en fait, quand on étudie la langue, on ne sait plus vraiment où on vit. Ces jours-ci, je me suis rendu compte, j'étais en Colombie, un festival, j'ai parlé un peu espagnol sans l'avoir étudié, et je parlais français, qui est ma langue, pratiquement, je le parle plus ou moins comme l'italien, et au lieu de dire la même chose, je disais también en français. Donc, en fait, il se produit des phénomènes comme ça. Non, j'ai commencé à rêver en espagnol récemment. Est-ce que je dois me faire soigner? Je ne sais pas. Ou alors c'est une richesse. C'est un problème compliqué. Et c'est sûr qu'on ne traduit pas soi-même comme on traduit les autres. Dans mon cas, j'ai étudié la théorie de la traduction. J'ai dû écrire aussi professionnellement de ce sujet. J'étais très ami de Mechonik. Il m'a beaucoup touché, influencé dans mon travail de traduction, parce que j'ai pu le fréquenter, dialoguer avec lui, traduire soit les poèmes, soit les parties, les essais, certains essais, pas des livres entiers, pas encore. Et cette sensibilité au rythme, justement, évoque l'importance de l'original. C'est pour ça que, tout en admirant beaucoup la créativité d'Haroldo Campos, je ne pourrais jamais être d'accord avec sa théorisation, parce que je pense que le traducteur jouit d'une liberté limitée. Et cette liberté limitée est éthiquement nécessaire, dans la mesure où il doit faire parler l'autre. S'il veut dire ce qu'il veut, il écrit son propre texte sans abîmer le texte original. Je trouve que c'est un choix d'honnêteté qu'il faut faire, parce que sinon c'est des adaptations, c'est plus de traduction. La traduction, c'est l'autre qui parle, il faut trouver la voix pour chaque texte qu'on traduit, et ce n'est pas toujours la même. Il faut faire cet exercice d'humilité qui nécessite à la fois de notre talent, Et c'est un talent qui doit être mis au service de la voix de l'autre. Quand j'ai traduit Bernard Noël, ce n'est pas le français de Bonnefoy, ce n'est pas le français de Hugo. Et il faut trouver mon italien de Hugo, mon italien de Vigny, parce que là, c'est le nom de cet auteur qui est dans la couverture. Et moi, je signe le service que je rends par ma voix poétique à la voix de l'autre. Et c'est celle-là, ce n'est pas mes idées, c'est ce qu'il dit lui. Il ne faut pas lui faire dire ce que j'aurais dit à sa place.
C'est vrai.
Hein?
C'est
sinon, j'écris mon livre. Parce que sinon, on le trahit. Et je pense que la loyauté, je ne parle pas de fidélité, est le point de départ d'une bonne traduction. Et il y a plein de belles traductions qui sont des exercices de style, mais qui ne sont plus l'original. Et l'original est le point de départ. C'est une écriture seconde, la traduction. Ça existe parce qu'il y a un texte qui la précède. Alors que quand j'écris un texte personnel, il n'y a rien, il y a le vide, et je remplis ce vide par mes mots, et je les assume complètement. Alors que quand je traduis, je dois faire dire, je dois me traduire en l'autre. J'ai utilisé ce titre pour un essai sur la traduction que j'avais publié justement dans un livre paru en Corse aux universités d'Albiana, qu'avait dirigé François-Michel Durazzo, qui est là dans le marché ces jours-ci, et qui est un excellent traducteur. Merci.
Merci beaucoup. C'est vrai que c'est fascinant, cette histoire de la théorie de la traduction et puis la traduction intuitive, comme on a évoqué tout à l'heure, et que ça dépend, je pense, ce qui me concerne, du texte au départ. Ça dépend aussi de notre personnalité, de notre appréhension de la langue, de nos autres lectures. Et il me semble que c'est très intéressant d'avoir plusieurs traductions d'un même poème par plusieurs traducteurs dans plusieurs langues, et que c'est toutes les traductions qui font ce même poème et qui l'enrichissent encore plus. Et donc, du coup, la question, peut-être, Roxana, il me semble qu'on n'est pas allé jusqu'au bout de cette traduction à quatre mains, qui peut être fascinante parce qu'il est à quatre mains de votre langue d'origine vers le français, mais aussi du français à votre langue. Quelle vous est plus proche, dans laquelle vous vous trouvez plus artiste, auteur, et dans laquelle vous êtes traductrice?
Évidemment, c'est l'espagnol qui est la Méditerranée, où je peux nager de façon libre et fluide. Et c'est à partir de ma résidence en France où je commence à habiter entre les deux langues. Et souvent, je suis lost in translation. Mais parfois, je dis, est-ce que ce texte, je l'écris d'abord en français ou en espagnol? J'ai oublié. Est-ce que ce que je trouve, c'est une traduction d'une copine poète ou c'est moi-même qui l'avais traduit? Vraiment, je dois mettre l'ordre dans mes papiers, mais c'est un peu ça. Pour écrire, il y a des textes en français mille fois qui peuvent m'allumer, et je me lance. Mais après, ces relations deviennent un peu tordues aussi, parfois des détestations. Par exemple, quand il y a une traduction de l'espagnol en français, et je suis obligée, ou la personne qui m'a traduit est obligée de définir les pronoms personnels. Ça, c'est terrible, terrible, terrible. Surtout parce qu'en espagnol, on n'est pas obligé de les mettre. Et surtout que les féminins apparaissent comme marqués. Donc, en espagnol, on peut presque finir un poème. Voilà. Oui, ça, c'est pas tellement compliqué, les bosses, puisqu'on l'assume, voilà, on utilise les bosses. Oui, bon, c'est tout, mais c'est comme dans toutes les régions, même d'Espagne, les régions différentes de l'Amérique latine. Mais il y a d'autres problèmes où ce sont plein de contraintes pour arriver à la langue cible, que c'est la langue que j'habite aussi. Et donc, ça devient une relation parfois très dure. Et même par rapport à la traduction, j'ai la chance, par exemple, maintenant, la poète Anne Talvas m'a dit, bon, j'ai eu un coup de cœur avec ses livres, je l'avais offert en passe de la baleine. Et je vais le traduire en espagnol, c'est super généreux de sa part, et j'en suis fière. et je l'aime aussi bien en tant que poète. Mais quand je commence à lire ses traductions, j'ai besoin de faire une pause, les détails de ce que j'ai voulu dire là et l'expliquer avec plein de gloses ce que j'ai voulu faire. Donc moi-même en tant que traductrice, j'étais la personne la plus libre du monde en Argentine, en ne connaissant pas les auteurs, et si les auteurs sont morts, tant mieux. Mais dès qu'on entend les dialogues, ça devient, non ?
Ça peut aussi conditionner.
Oui.
Ça peut conditionner, oui. Par exemple,
je vais
vous dire une anecdote très rapide, c'est pas pour de moi de me vous couper momentanément la parole. Quand je traduisais Bonnefoy, j'allais à la rue Le Pic et il me lisait à haute voix, en italien, mes propres traductions. C'était très émouvant. Et vous savez quand ça lui plaisait le plus ? Quand ça ressemblait à Leopardi. Parce qu'il aurait voulu être Leopardi s'il n'avait pas été Bonnefoy en français. Et il aurait voulu être italien s'il n'avait pas été français. Alors quand même, en plus c'est un grand traducteur, il connaît les deux langues. Donc il y a un conditionnement psychologique dont j'ai dû aussi me défendre. Parce que finalement, parfois, j'ai dit, en principe ça marchait parce qu'il aimait beaucoup mes traductions. Il disait, Fabio, c'est très transparent, ça me soulageait, quoi, parce qu'on a peur que... Et il me disait, c'était pas comme ça pour tous les autres traducteurs. Il dit, j'ai 300 pages de correspondance avec mon traducteur américain, il y a deux fautes sur chaque vers, non ? En anglais, ça ne passait pas du tout. En italien, ça passe. Je ne sais pas si c'était moi, si c'était le hasard. Non, donc, ce n'était pas parce qu'il me contredisait comme traduction. Mais en même temps, il y avait une théorie de la langue italienne. Il y avait une poétique implicite à lui qui le portait à me conditionner pour que je le léopardise. Et moi, je ne voulais pas le faire. Et finalement, je lui ai dit... Bon, parfois, j'ai dit... Vous signez l'original, moi je signe l'original. Et finalement, on s'attendait. Mais c'était une dialectique intéressante parce que ça révèle l'inconscient de l'auteur par rapport à la langue qu'il maîtrise et dont il est traducteur, parce qu'il traduisait Leopardi en français. Donc il y avait dans les deux sens, non, ce mouvement. Et je pense que ça pouvait être intéressant pour comprendre concrètement ce qu'on est en train de dire là.
En plus, je ne sais pas si ça vous est arrivé quand on revoit le... ses propres textes par rapport à la langue cible pour confronter la traduction avec le texte d'origine qui est notre texte. Là aussi, c'est terrible parce que le texte n'est jamais figé. Donc, j'ai une anecdote très drôle avec Frédéric Italiviani qui est poète et éditrice à Marseille, fidèle à Telmix. Un jour, on s'est enfermé pendant, je sais pas, plusieurs jours dans une maison vide à Marseille pour travailler. Et une traduction en français d'un texte qu'elle allait publier. Et elle voulait exactement que, voilà, mettre ces deux langues, ces deux textes face à face et que ça corresponde parfaitement. Et on s'est mis comme ça à travailler ensemble. Tandis que moi, j'avais commencé déjà à me traduire en français. Et puis, quand il arrive le moment de la correction finale pour la publication... Elle m'appelle énervée, mais qu'est-ce qui se passe ? Maintenant, ça ne coïncide plus, etc., etc. Je lui dis, écoute, moi, je peux me trahir puisque c'est mon texte. Et là, je ne mets plus comme ça. Je l'avais changé en espagnol. Et donc, elle m'a obligée d'écrire un texte là-dessus pour le mettre comme préface à l'édition. Parce que c'est... On ne peut jamais considérer son propre texte comme déjà figé dans une langue morte. Non, il est toujours vivant et c'est la même chose qui arrive avec la traduction dans l'histoire.
Oui, j'ai déjà parlé avec beaucoup de traducteurs de leurs propres textes, pas seulement de la poésie, mais particulièrement en poésie, où l'auteur lui-même accepte que la traduction ne soit pas la traduction, mais une sorte de transposition ou la réécriture. Et c'est très drôle quand quelqu'un d'autre qui parle les deux langues remarque la différence. Et nous, on dit, ben oui, mais c'était ma traduction. Je vois le temps qui passe, mais ce qui peut être peut-être intéressant, puisqu'on voulait parler surtout aussi de la traduction du français dans vos langues, quel est l'accueil, d'après vous, très rapide peut-être, très général, hein, puisqu'on avait peu de temps, mais l'accueil de la poésie française, plutôt de la contemporaine, dans vos pays respectifs ? Peut-être Wang ?
En fait, pour la poésie contemporaine, je n'ai pas beaucoup de connaissances sur ça, mais en fait, je pense que la poésie, pour moi, en tant qu'une Taïwanaise, c'est vraiment comme l'esprit de la littérature française. Ça, c'est vrai, parce que comme Taïwan, si on est vraiment un pays comme Taïwan, et surtout au niveau littéraire, on a une littérature très très nouvelle. Et à l'époque à peu près 50-60, et c'était l'époque ou le moment où surgit la poésie contemporaine de Taïwan. Et à cette époque-là, il y a beaucoup de revues qui apparaissent comme un terrain ou comme un endroit pour tous les poètes de publier leur poème. Et en tout cas, il y a une revue, et en tant que le volume numéro 1, l'éditeur écrire un article sur qu'est-ce que la poésie contemporaine. Et donc, à cette époque-là, cet éditeur a dit que la poésie contemporaine de Taïwan, c'est comme un héritage, horizontal, pas vertical. D'accord. Donc, c'est-à-dire, c'est un héritage horizontal, c'est-à-dire, il pense que la poésie contemporaine de Taïwan est un héritage de Baudelaire. Donc, il a cité Baudelaire comme, comme l'ancêtre de la littérature, non, de la poésie contemporaine, et y compris la littérature contemporaine de Taïwan. Donc, à Taïwan, sur le plan de la poésie, on a vivement influencé par la poésie française.
Super. Merci. Oksana?
Ce que je peux dire, au-delà de certaines anthologies qui ont pu être publiées dans les années 90 ou ces millénaires, comme un panorama assez relatif, comme toutes les anthologies de la poésie contemporaine française, je pense qu'à ce moment-ci, un peu les ponts sont un peu coupés par rapport au passé, où jusqu'aux années 70, jusqu'aux années 60 plutôt, la traduction française tout au long de l'histoire du pays, hein, aussi, parce que c'est une histoire assez jeune, qui date du 19e siècle. La culture était surtout la culture française et tout était traduit immédiatement. À partir des années, donc les poètes, voilà, ils ont eu vraiment une présence absolue, je pense jusqu'à l'époque de René Char, etc. Et puis ça donnait plutôt lieu à la traduction, surtout de penseurs et de philosophes, et s'est arrêté un peu la communication avec la poésie de cette époque-ci, de la même façon qu'ici. Jusqu'aux années à peu près 70, je vois que c'est Alejandra Pizarnik, à peu près la dernière poète traduite en français. C'est vraiment dommage, non? C'est une des choses que dit Haroldo de Campos aussi. C'est les bonnes époques de la littérature sont les époques où il y a beaucoup, beaucoup de traductions. Et là, paradoxalement, peut-être parce que la poésie ne donne pas de bénéfices économiques, c'est une époque très pauvre de traductions, au-delà des grands exploits de maisons d'édition indépendantes qui les font. Mais c'est très, 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 très peu, et c'est vraiment dommage, parce que ça empêche la lecture des autres. Les autres sont sans contexte. On peut découvrir un poète français actuellement, mais il n'y a pas tous les contextes d'autres écrivains et qui sont en train de les nourrir, avec lesquels ils sont en train de dialoguer.
Donc il faut encourager.
Dans tous les sens, la traduction, c'est vrai.
Fabio, peut-être, il nous reste trois petites minutes.
Oui, bien sûr, merci. J'ai des expériences personnelles récentes là-dessus, en tant que passeur, disons. La collection de poésie la mieux diffusée en Italie, parmi les plus historiques, disons la collection blanche d'Inaudi à Turin, m'a demandé il y a une dizaine d'années de, de faire une anthologie de la nouvelle poésie française. Et donc, je suis parti d'un choix de 130 auteurs. Ça partait d'une initiative de l'ambassade de France à Rome. Et puis d'abord, j'ai négocié avec les responsables français. Et après, on a proposé à l'éditeur qui a totalement accepté nos décisions, soit sur le texte, soit sur les... même si ce n'était pas un livre financé par la France, c'est un livre financé par l'éditeur. Mais il a accepté les textes et les auteurs qu'on a proposés. Et ça, finalement, je m'étais donné un critère chronologique. Le plus vieux était né en 1940, le plus jeune, c'était Alain Weinstein, et le plus jeune était né en 1970, c'était Valéry Rousseau. Voilà. Et donc, là, il y a des poètes, Christian Prigent, Olivier Cadiot, Philippe Beck, bon, il y en a 12 des avant-gardes, il y en a d'autres du néolyrisme. Ça a été l'occasion aussi de découvrir qu'ils se détestent mutuellement, mais moi, j'avais le rôle d'être historien de la traduction, et l'éditeur m'avait demandé de faire état des différentes... courant, après l'édition que Jacqueline Risset avait donnée de la poésie d'avant-garde telle qu'elle dans les années 70 dans la même collection. C'est une chose que peut-être certains de ces auteurs qui ont critiqué mes choix n'avaient pas compris. Et j'avais exclu des amis qui m'ont presque... qui ne me saluent plus parce que je ne les ai pas mis, et j'en ai mis d'autres que je n'aimais pas parce qu'ils méritaient d'y être, parce qu'ils avaient été historicisés. Bon, quand on a un rôle d'universitaire poète, il faut mettre un peu de côté parfois les amitiés personnelles. Il faut savoir qu'on fait des livres qui dureront 30 ans, et c'est un livre qui a vendu 2-3 000 exemplaires, donc ça a servi à faire comprendre ce que c'est que la poésie française contemporaine. Il y avait eu une, partiellement, comme toujours, parce qu'on ne peut pas tout mettre, il y avait eu une anthologie précédente chez Marcos y Marcos, dirigée par un ami poète, Fabio Pusterla, qui est très proche de Jacoté, qui a fait la préface aussi de la Pléiade de Jacoté récemment chez Gallimard, mais qui avait été considéré comme trop partiel. Il y avait 5 ou 6 auteurs et ce n'était pas suffisant. En général, je dois dire, d'après mes études pour une revue, ce sont les revues surtout qui font un travail qui fait connaître la poésie contemporaine, parce qu'elles peuvent publier les auteurs sans payer les droits. Alors, Poesia de chez Crocetti à Milan est un phénomène international important. Depuis 30 ans, elle publie dans les kiosques à journaux, un mensuel qui s'est vendu même à 22 000 exemplaires par mois maintenant. C'est entre 5 et 10 000. Et c'est une revue dont la moitié de chaque numéro est texte en regard et poésie étrangère. On ne peut pas dire la même chose dans d'autres pays qui souvent, surtout en Angleterre, ne publient que des auteurs essentiellement de langue anglaise. Donc ça ne souffre pas beaucoup. Et en faisant une enquête pour une revue turinoise, je termine par là, qui s'appelle Tradurre, et que vous trouvez dans le web, on a fait un numéro où on a demandé à des spécialistes de chaque rayon linguistique de faire état des 30 dernières années de poésie traduite dans notre pays. Et alors, en faisant une enquête éditoriale, j'ai découvert que bon, il y a les grands classiques qui ont été cités ici, de Baudelaire à Rimbaud, Verlaine, en arrivant jusqu'au surréalisme, Éluard, Aragon, etc. Tout cela est traduit en Italie partiellement, Aragon très partiellement, par exemple. Mais dans la deuxième moitié du siècle, c'est surtout les revues. Et en ce qui concerne le livre, le plus traduit est Jacques Prévert. Et il faut se demander comme ça, pourquoi, je trouve. Parce que souvent, on a parlé de Prévert comme d'un poète facile, etc. Bon, la facilité, il faut aussi être capable de se faire entendre par les gens. Mais je demande si en poésie, elle est toujours un défaut. Il faudrait être un peu plus respectueux. Et l'autre, c'est Yves Bonnefoy. Pour 1000 raisons, j'ai fait la Pléiade italienne, le Meridiano Mondadori, de son œuvre poétique complète, qui est apparue en 2010, en presque 2000 pages. Et c'est le seul poète dans cette collection française. Il n'y a pas Char, il n'y a pas Apollinaire, pour vous dire quelle est l'importance de cet homme dans le monde entier pour la poésie française, et non seulement française. Et j'aime le rappeler ici, 2 ans après sa mort. Voilà.
Merci beaucoup. Je suis gênée de vous arrêter parce qu'on écouterait. Merci pour votre écoute. C'était la table ronde autour de la traduction. Et puis, bonne continuation. Merci encore.